France Musique. Les grands entretiens, Jean-Baptiste Urbain. France Musique.
Montpellier, 24 janvier 1941, naissance de Isabelle Marielle Nordman, musicienne.
Norman, nous avez parlé de votre duo, bien sûr, avec Lily Laskin, avec Jean-Pierre Rampal, vos collaborations artistiques avec d'autres musiciens, et puis vous allez prendre des chemins de traverse, et notamment, pour commencer, un chemin qui vous mène en Argentine, où vous étiez encore il y a quelques semaines. Comment vous avez découvert ce pays ?
On est venu me chercher. Léonore Loureau, qui était la grande Madame Musique en Argentine, en 89, a été au ministère des Affaires étrangères en disant « Voilà, moi je voudrais remonter l'école de harpe en Argentine, qui a été une école très importante et qui en ce moment ne va pas bien parce qu'il y a des querelles internes qui sont pas très intéressantes et qui font que le harpe, les jeunes harpistes n'ont pas vraiment de direction. Et je voudrais avoir Marielle Nordman. » Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et c'est une collaboration qui a duré 10 ans. Entre 89 et 99, j'ai été tous les ans en Argentine, pendant pas mal de temps, 2 à 3 semaines chaque fois, à la fois pour donner des masterclass et pour donner des concerts, ce qui a été pour moi une expérience absolument fantastique au niveau, sur le plan humain, parce que quand je suis arrivée en Argentine, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui jouaient de l'harpe, mais on va dire que c'était à l'époque une harpe qui était assez petite, entre guillemets. L'instrument n'avait pas été vraiment développé et ça a été une expérience qui a été absolument fantastique parce que je me suis trouvée avec des gens de tous les bords et, qui venaient de l'ensemble de l'Argentine. L'Argentine est un pays absolument gigantesque puisqu'il y a 5000 km entre la frontière brésilienne et la Terre de Feu. Et tous ces harpistes venaient au cours, faisant quelquefois 2 jours et 2 nuits de quart, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de venir autrement, et en arrivant pour les cours, n'avaient même pas de quoi manger. Donc en m'apercevant de ça, j'avais mis les choses au point tout de suite en disant si tout le monde ne vient pas manger avec moi, je fais pas cours cet après-midi. Alors, c'était aussi simple que ça. Et donc nous avons des liens vraiment très importants qui se sont développés et qui perdurent. Et ces 10 ans ont été la découverte de tous ces gens magnifiques qui avaient une telle soif, des flûtistes, des altistes, des orchestres. J'ai eu la chance de jouer au Théâtre Colonne, qui est quand même un des plus beaux théâtres du monde, puisque c'est la réplique de l'Opéra Garnier à Paris. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que là, j'y suis retournée cette année, mais aussi j'y suis retournée les années précédentes, et je fais maintenant travailler les élèves de mes élèves. Donc je suis devenue la grand-mère harpe des musiciens de là-bas, et ce qui est aussi merveilleux, et là, c'est peut-être le pays où j'ai l'impression d'avoir peut-être fait vraiment quelque chose, c'est que tous les jeunes que j'ai eu moi la chance de faire travailler sont maintenant en poste dans les différents orchestres d'Argentine, voire d'Amérique du Sud. Et j'ai été la première artiste internationale, alors là je vais me gonfler un petit peu, la première artiste internationale à avoir donné un concert en Terre de Feu. Donc ça, il n'y avait jamais eu
à
quelqu'un.
Ushuaïa.
À Ushuaïa. Voilà. Et quand j'y ai joué à l'époque, il y avait sur place, c'était vraiment une petite ville, il y avait 2500 personnes qui habitaient là-bas. Il y avait 750 personnes au concert. Si vous voyez le pourcentage, on aimerait bien avoir ça partout. Et puis, ben, voilà, dans la foulée, j'ai failli y rester définitivement parce que j'ai eu un baptême de l'air de l'hélicoptère entre la fin de l'Argentine et la Terre de Feu. Et il y a eu un brouillard givrant et le pilote ne voyait plus rien du tout. Et comme c'était à vue, quand il a pu revoir, on était à peut-être à 4 ou 5 mètres d'une montagne. Et voilà, ben, je suis toujours là. Mais enfin, j'ai un petit frisson dans le dos quand même. Voilà,
malgré donc, ça, c'est devenu votre pays de cœur.
Voilà, voilà, je garde des liens extrêmement forts avec l'Argentine et avec les amis là-bas.
Une voix forte remplit l'espace.
Manora, il te faut laisser sonner ton intérieur. Plonge dans ce liquide. C'est le moment de ta guérison.
Elle obéit, poussée par une profonde évidence. Elle sent, sur tout son corps, une brûlure intense. Dans ce tourbillon de souffrance, au plus profond d'elle naît une force prodigieuse.
Hors des sentiers battus, c'est l'Argentine, et puis c'est aussi sortir de scène, des concerts classiques, et se mettre à faire des spectacles musicaux avec d'autres artistes que des musiciens, des mimes, des comédiens. Être récitante soi-même, ça a commencé comment, ça ?
Ça a commencé par le fait que tout d'un coup, j'en ai eu marre d'être une potiche derrière ma harpe. C'est-à-dire d'être assise avec une belle robe, de jouer des choses que voilà le mieux possible. J'ai eu envie de me faire comprendre autrement du public, d'être plus proche, et pour ça donc d'utiliser le langage et de trouver à tout crin une possibilité que tout un chacun puisse venir écouter une histoire, mais aussi venir entendre de la musique et donc aussi de l'art, puisque c'est tout ce que je sais faire. Donc est venue l'idée, voilà, ça a tournicoté pendant pas mal de temps. J'avais envie de faire quelque chose qui soit plus particulièrement destiné aux enfants. Donc l'idée d'un conte est arrivée. Et puis un jour, une de mes élèves, Christine Icard, formidable harpiste, me donne un livre qui s'appelle « Le livre du thé ». Okakura Kakuzo, qui est un livre japonais sur la cérémonie du thé. Et dans ce petit livre, il y a un chapitre qui s'appelle « La harpe apprivoisée ». Et je tombe en arrêt sur ce conte, qui est une très très belle histoire de voilà, on va dire de quoi, de 6 ou 7 lignes. C'est un magicien qui arrive dans une forêt, qui entend le vent chanter dans un arbre et qui cueille le son du vent pour en faire la première harpe. Je ne vous raconte pas le reste. Et ce livre, je l'emmène en Argentine. Et en Argentine, en Terre de Feu, dans le parc national qui est entre Ushuaia et le Cap Horn, il y a un arbre sur une espèce de petite colline. Je monte sous cet arbre et la personne avec laquelle je suis me dit « Écoute le vent qu'il y a dans cet arbre, tu es la première oreille humaine à l'entendre. » Et ça fait une émotion à l'intérieur de moi. Et je me dis, l'harpe apprivoisée, je vais en faire un conte musical. Je vais voir un producteur. Je lui dis, voilà, j'ai envie de faire ça, Dumont. J'ai envie de monter ça. Comment est-ce que je peux faire ? Tout à fait par hasard, à France Musique, je suis un jour en train de jouer de l'harpe. Et à côté de moi, il y a un jeune homme qui est là, qui fait quelque chose que je n'avais jamais vu de près, qui fait des claquettes. Alors, il me dit, je suis danseur de claquettes. Alors, lui, il était sur une petite planche qui faisait 50 cm au carré. Et il fait des sons absolument extraordinaires. Et à la fin de sa prestation, je vais le voir et je lui dis, est-ce que par hasard, vous auriez envie de faire de la musique avec moi ? Donc, je trouve un danseur de claquettes avec lequel je fais quelques concerts d'ailleurs. Et ensuite, tout de suite, l'idée est venue que ce danseur de claquettes allait être le magicien. Donc, il y avait déjà de la harpe et des claquettes. Ensuite, je voulais absolument avoir un autre art. Et là, j'ai une amie qui est comédienne et qui fait beaucoup de masques. Et je me dis, voilà, on va faire des masques, parce qu'elle a des masques différents, qu'elle fait d'ailleurs elle-même, Agnès Constantinoff. Et on se lance dans cette aventure avec un Alain Sachs, qui est un fantastique metteur en scène, et qui me laisse pataugé, mais il n'y a pas d'autre mot, au niveau de la diction et de la, au niveau de l'acteur, en me disant, tu es une grande artiste, tu joues magnifiquement de l'art, tu parles comme une saucisse, enfin, il n'a pas dû me dire ça tout à fait comme ça, mais c'était quelque chose de cet ordre-là, je vais t'aider, mais pas plus que ça, je ne vais jamais te montrer, il faut que ce soit toi qui trouves par toi-même. J'ai trouvé ça d'une cruauté, en même temps, ça m'a fait travailler, mais de façon incroyable, parce que moi, je ne m'entendais pas parler. Ça a fini par être un peu moins mauvais. Et puis, cette aventure, elle s'est créée au Théâtre de la Ville. On n'y a pas été par quatre chemins. Ça s'est créé en 95 et ça a eu 15 ans d'existence. C'était absolument incroyable, parce que partout où on pouvait entendre le français, eh bien, on l'a donné. On n'a pas été au Canada, mais on a été dans les pays où on pouvait être compris. Et ça reste un souvenir merveilleux. Il y avait 5 harpes sur la scène. J'avais calculé, je crois que ça faisait 170 cordes ou 172 cordes à accorder avant chaque concert. C'était complètement... Je fallait vraiment être fou pour s'embarquer dans un truc comme ça. Voilà, il y avait un décor, il y avait des costumes. Enfin, on s'est amusé, mais amusé. Et ça m'a donné l'envie de continuer. Et donc de mêler l'harpe à des tas d'autres instruments, voire même de continuer seul, en ayant à la fois la parole et la musique, et de faire des espèces de coutures entre la parole et la musique, toujours dans la même idée de me faire comprendre des gens que j'avais en face de moi. Le fait d'avoir un interprète qui faisait les deux faisait vraiment un lien de tresser quelque chose dont eux tenaient un bout de la tresse et moi je tenais l'autre. J'ai 3 souvenirs du plus beau compliment que j'ai reçu dans ma vie. Le premier, c'était en prison. Il y a un prisonnier qui est venu me voir à la fin d'un concert, enfin d'un court concert, et qui m'a dit « Grâce à vous, je me suis évadée pendant une heure ». Et ça reste quelque chose de... C'est tellement beau de pouvoir dire ça. Alors, les prisons, il y avait de tout. Il y avait des centrales avec des gens qui étaient là à perpétuité. Ce n'est pas des petits saints. Mais... Alors, j'ai eu aussi des grands échanges épistolaires avec pas mal de prisonniers pendant pas mal d'années. Après ça, il y a eu une deuxième chose qui était jolie aussi. Dans un tout petit village dans les Cévennes, il y a un vieux paysan qui est arrivé à la fin du spectacle et qui m'a dit ouais, moi j'ai jamais entendu la musique comme ça en vrai, puis l'harpe, bah, je sais pas trop ce que c'est, mais quand vous avez joué cette pièce là j'ai eu envie de danser, et quand vous avez joué cette pièce là j'ai eu envie de pleurer. Et je me suis dit, mais j'aurais jamais un plus joli compliment que ça, parce que ce sont des choses qui viennent vraiment tellement du cœur. Et en fait, ben voilà, en avançant dans la vie, on s'aperçoit qu'il n'y a que les choses du cœur qui sont importantes, parce que le cœur, c'est ce que nous sommes vraiment, c'est tout ce qui est, c'est toute la belle partie de l'être humain, et c'est vraiment là que tout se joue. Et puis, troisième endroit, j'ai toujours la même émotion quand je le raconte, ça me fait toujours la même chose. C'était dans un centre d'enfants handicapés. Parce que bon, pendant tout un temps, j'essayais d'organiser, quand il y avait un concert dans une ville, que de l'après-midi, de pouvoir me rapprocher de gens qui ne pouvaient pas, eux, se déplacer. Et donc, dans un centre d'enfants qui étaient à la fois handicapés moteurs et handicapés cérébraux, et ça, c'est très, 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 très lourd. À la fin du mini-concert que j'avais donné, je vois tout le personnel en train de se moucher, d'essuyer les yeux, et je vois les gens pleurer. Et je dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Quoi. Et ils me disent, on vient d'assister à un miracle. Il y a un gamin qui a 15 ans, qu'on a depuis qu'il est tout petit avec nous, qui ne peut bouger ni les bras ni les jambes, on est obligé de lui donner à manger, etc. Et il vient d'applaudir. Et c'est là, au fur et à mesure de toutes ces expériences, que je me suis rendu compte du pouvoir de la musique, que je me suis rendu compte du pouvoir qu'on pouvait... du pouvoir, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que le pouvoir, ça, quelque part, ça ne donne que des responsabilités, ça ne donne aucun privilège. Si vous voulez que ça serve à quelque chose, il faut immédiatement pouvoir en faire quelque chose pour les autres. C'est, me semble-t-il, le béaba de l'expérience humaine, ça.
Musique, les grands entretiens de Marielle Nordman.
Vous avez enseigné ? Vous avez beaucoup enseigné ?
Oui, j'ai beaucoup enseigné, mais jamais dans un endroit officiel, sauf les masterclass pour bébés. En fait, on m'avait proposé de prendre la classe de harpe au CNSM et j'ai refusé.
Pourquoi ?
Alors, ça reste un peu un point d'interrogation pour moi. Alors, je crois que d'une part, je ne me sentais pas complètement capable. Bon, alors c'est un peu étrange, c'est vrai, parce que j'enseigne dans le monde entier, donc je ne sais pas exactement. Je crois que j'ai eu un peu peur à la fois de l'administration, je ne suis pas sûre de ça, mais j'avais un peu peur d'une espèce de routine, parce que ça c'est quelque chose qui est très très difficile pour moi. Je crois que je suis une femme très très libre et j'ai peut-être eu peur de quelque chose de répétitif qui aurait fait que je ne me serais plus amusée entre guillemets en faisant quelque chose, et moi j'ai besoin de m'amuser quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'y croire complètement, et du coup je ne l'ai pas fait, et tout en me disant bien sûr bon, j'ai tellement travaillé avec Leskine, il y a quelque chose à redonner mais je le donne d'une autre façon, et puis je le redonne un petit peu partout dans le monde, et puis j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de partout du monde entier, avec quelquefois des gens qui me disent des choses voilà aussi jolies que ça, voilà, j'ai une élève japonaise qui est venue passer 6 mois à Paris avec toute sa famille, hein, en mettant ses enfants dans une école japonaise, enfin ça me paraît vraiment fou, et quand elle est partie, elle m'a envoyé un petit message en me disant maintenant grâce à vous je sais pourquoi je m'assieds tous les jours derrière ma harpe. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est joli, c'est touchant. Je sais pas, je fais les choses de façon, c'est toujours très intuitif, quoi. Quand je sens pas une chose, je fais pas, c'est tout. Thank you.
concours, Laskin,
alors,
en 1993,
il y a eu la création de, voilà, il y a eu la création du concours Laskin, avec aussi quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'était un concours international junior, c'est-à-dire pour les moins de 15 ans. Ça n'existait pas encore, en tout cas au niveau de la harpe. Et c'était bien, parce qu'on voyait chez les tout jeunes, on voyait ce qu'ils allaient devenir, et souvent les premiers prix juniors devenaient par la suite des premiers prix seniors, entre guillemets, c'est-à-dire quelques années plus tard. Oui, c'était bien de créer un concours qui portait le nom de Lily Laskin. Là aussi, moi, je m'en suis occupée pendant 10 ans. Voilà, ça fait partie.
Mais c'est violent, un concours aussi. On vous voit mal chef de concours.
Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de m'apercevoir ? En fait, j'étais seulement la directrice artistique. Je ne m'occupais pas du monde matériel, parce que je crois que je suis pas très bonne dans ce monde-là. Bah, directrice artistique, ça veut dire que je faisais le programme, je choisissais les membres du jury, et j'étais présidente du jury. Bon, c'était déjà pas mal, hein, mais ce qui est terrible, le concours, il y a deux volets complètement différents, avec posé sur quelque chose. Laskin était formellement contre tous les concours, parce que et je suis complètement d'accord avec ça, parce que le concours met en compétition des artistes et l'art ne se met pas en compétition. Donc ça, effectivement, il y a quelque chose qui est faux là-dedans, et ça crée aussi souvent, sur le plan humain, des choses qui, je pense, ne sont pas justes, parce que ce sont les Africains qui disent ce qui est terrible dans un concours, c'est que il y a un homme qui est heureux, enfin il y a une personne qui est heureuse et toutes les autres qui pleurent, et c'est un peu vrai. Donc ça. Alors il fallait toujours recadrer, voilà, faire un discours pour expliquer aux gens qui étaient là que ce qui était important, c'est le travail qu'ils avaient fait, et ça c'est vrai, parce que le concours oblige à mener le plus loin possible un programme et aller aussi loin que possible par rapport à soi-même, donc de se dépasser. Et aussi de voir par rapport aux autres, de se situer par rapport aux autres, non seulement sur un plan national, mais sur un plan international, on devrait ne pas se soucier du but. Parce que on sait comment les concours se passent, c'est pas toujours aussi clair que ça devrait l'être. Il y en a qui sont très clairs, des concours, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Et il y a beaucoup de choses qui interviennent qui ne sont pas forcément toujours de l'artistique. Et puis, ce qui se passe dans un concours, c'est que on ne peut juger, le jury ne peut se mettre d'accord que sur la technique instrumentale et très rarement sur l'artistique, parce que chacun, c'est comme dans une discussion, chacun entend la musique à travers son propre prisme. Et dans un concours, c'est la même chose. Le jury entend un certain nombre de choses, le jury est posé sur ses propres importances, et ça va être rédhibitoire. Donc difficile. Bon, après ça, ce qui était important, m'avait-il semblé à l'époque, c'était de continuer à faire vivre le nom de Lily Laskin. Et bon, ce concours, il est devenu l'un des concours de la ville de Paris. Donc bien entendu que sur un plan de sa renommée, dont elle n'avait strictement pas besoin, mais enfin, elle était quand même partie depuis pas mal d'années, ça pouvait être valable, on dira, voilà. Et ce concours, bah, malheureusement, il s'est arrêté.
Thank you.
Claude Debussy, danse profane pour harpe et quatuor à cordes, avec Marielle Nordman à la harpe et le quatuor Debussy. Vous retrouvez la programmation de cette émission sur francemusique.fr, sur la page des grands entretiens, où vous pouvez réécouter cette série. À la prise de son, il y avait Olivia Branger, attachée de production Marion Guillemet, mixage Valérie Lavalard, réalisation Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.